transition. Je mets ces concepts bout à bout parce qu'ils font référence à chaque fois à des idéologies qui ont permis la poursuite du développement capitaliste et que dans sa dimension coloniale, ce développement repose sur l'extraction. L'extraction minière, l'extraction pétrolière, ça a été vraiment complètement structurant dans chacun de ces récits qui se poursuivent aujourd'hui avec la transition, qui repose sur l'extraction. Pour des raisons, je peux rappeler là rapidement, mais l'idée que les classes dirigeantes ont interprété l'impératif des accords de Paris, la réduction des gaz à effet de serre, comme étant une poursuite de la croissance et une nécessité de substitution énergétique. Donc, on serait censé laisser les fossiles pour utiliser des renouvelables, du nucléaire, qui repose en fait essentiellement sur l'extraction minière. Donc, il y a plusieurs manières de prendre le problème. La première chose qu'on peut dire, c'est que cette substitution ne fonctionne pas dans les faits, parce que en réalité, le boom minier dans lequel aujourd'hui on se trouve a besoin des fossiles et repose en fait sur le charbon, etc. J'en donnerai des exemples. Et l'autre chose, c'est que cette transition dans laquelle on est embarqué, c'est à la fois la nécessité de produire massivement des métaux pour des batteries, pour du photovoltaïque, pour tout câbler, pour tout électrifier, pour les éoliennes. Mais c'est aussi le maintien de la demande en métaux qui préexiste. Et cette demande en métaux, elle est déjà totalement insoutenable. C'est-à-dire que à la fois, il y a des projections qui existent, des gens qui ont fait des études un peu chiffrées. Pour électrifier le système énergétique au niveau mondial, il faudrait au moins multiplier la production de cuivre par 20, la production de lithium par 300. À chaque fois, c'est des dizaines de fois. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi continuer à produire des avions, évidemment. Il faut continuer à alimenter Airbus en métaux. Et on consomme des milliers de tonnes, enfin des centaines de milliers de tonnes par an. Il faut continuer à développer le big data, le numérique. Et en fait, ça, c'est un gouffre énergétique et un gouffre en métaux. Et donc, tout s'additionne, ce qui fait que le boom minier dans lequel on est aujourd'hui est vraiment sans précédent et démultiplie la violence qui préexistait et qui, de toute façon, était largement invisibilisé. Je vais m'arrêter sur l'eau. Mais donc le contexte, c'est ça. Et finalement, ce qui est intéressant déjà de noter, c'est que ce qu'on appelle transition repose finalement tout autant que les phases précédentes, les histoires précédentes du capitalisme sur l'extraction minière. C'est-à-dire qu'on est dans une parfaite continuité. Et je pense que il faut s'interroger, enfin c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, sur l'affinité des peuples européens, de leurs élites, dans leur histoire, dans leur culture, avec ce rapport au sous-sol, qui est en fait très étrange. Même quand on va sur un site minier aujourd'hui, on ne peut... si on fait un pas de recul, c'est très très étrange ce qu'on fait avec la matière. C'est pas seulement qu'on détruit tout, comme tu l'as expliqué, mais c'est aussi qu'on prend une montagne et qu'on la broie en farine. Et ensuite, on la transforme en quelque chose de liquide. Ce sont des pratiques qui est difficile de qualifier de rationnelles. Et donc, une fois qu'on a compris qu'en fait, cette soi-disant transition, elle ne résiste pas à une addition. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a absolument aucune possibilité que on ait une quelconque chance de lutter contre le réchauffement climatique en extrayant tous ces métaux. On est obligé de s'interroger sur pourquoi ce culte de l'artificialisation du monde par des matières issues du sous-sol quel monde on fabrique avec ces matières issues du sous-sol, etc. Alors cette transition ne fonctionne pas parce qu'elle est additive, hein, Jean-Baptiste Fressoz l'a bien montré dans son travail. Elle ne fonctionne pas aussi parce qu'elle est elle complètement, du point de vue du réchauffement climatique, ça ne fonctionne pas parce qu'elle présuppose l'idée qu'on pourrait décarboner le système minier. Et ça n'a pas de sens. On ne peut pas. On ne sait pas faire. C'est écrit dans des rapports de la Banque mondiale ou de l'Agence internationale pour l'énergie qu'on va essayer de décarboner les mines. Et on ne peut qu'être perplexe devant la légèreté d'une telle idée. C'est-à-dire, oui, on va lancer partout sur la planète des projets miniers en espérant qu'on puisse décarboner les mines. Non, mais c'est incroyablement faux, en fait. J'ai jamais vu un site minier qui fonctionne avec des énergies renouvelables. Et pour cause, ça n'existe pas. Et on parlera tout à l'heure du projet lithium à Échassières dans l'Allier. Ben, à Échassières dans l'Allier, par exemple, il y a 3 usines qui sont prévues. Dans l'une d'elles, il y a un four pour calciner le minerai. Et ce four en gaz, ce qui ne peut fonctionner qu'au gaz, qui font 1000 degrés, il consommerait autant d'énergie que la consommation domestique de 67 000 personnes. Et ça, c'est la vitrine de la mine pour la transition écologique. C'est-à-dire que c'est vraiment un endroit où les entreprises ont intérêt à mettre le paquet pour prouver cette idée. Donc ça ne fonctionne pas du tout. Il y a le fait que les quantités de métaux à fournir sont absurdes et qu'elles condamnent de fait la possibilité de lutter de toute façon contre le réchauffement climatique, puisque pour produire 30 ans de production de cobalt, ben, ça prend des décennies en fait, ça ne prend pas des mois ou des années. Et il y a évidemment la question de la violence sur laquelle repose tout ça, qui est ce qui rend en fait l'écologie complètement à repenser, parce que nous sommes en fait prisonniers d'une écologie bourgeoise, technocratique, technosolutionniste et coloniale. Et la transition, c'est un projet colonial, de fait. Alors, ma mission, c'était de décliner un peu ça dans mes enquêtes, donc il ne faut pas que j'oublie de le faire. Peut-être pour exposer un peu les choses, l'un des principaux aspects de cette violence dans ce que j'ai vu ces dernières années, c'est la question de l'eau. Parce qu'on dit souvent, il n'y aura jamais de toute façon assez de minerais pour produire tous ces objets, tous ces véhicules électriques, etc. Mais en fait, la question immédiate, c'est... Non, mais par contre, on est sûr qu'il n'y a pas assez d'eau pour produire tout ça. Et que faire fonctionner ces mines repose sur une violence qui est déjà un énorme problème. Pourquoi le secteur extractif a besoin de tellement d'eau? Alors, par exemple, pour les mines métalliques, ce sont effectivement des machines prédatrices de l'eau. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si vous voulez exploiter une mine de cuivre, vous allez avoir donc la montagne, et puis vous allez avoir un gisement qui va contenir 0,4 ou 0,5% de cuivre. Que tout ce que vous allez sortir de cette montagne, vous allez tout ce qui va sortir du gisement, vous allez le broyer, et que pour le broyage, vous avez besoin d'énormément d'eau. C'est le poste qui demande le plus d'eau et le plus d'énergie, et les mines, en gros, la fourchette, c'est qu'elles peuvent consommer autant d'eau qu'une ville de 50 000, 100 000 ou 300 000 habitants, selon les endroits que les mines de cuivre au Chili consomment autant d'eau que des villes de 300 000 habitants, donc c'est absolument gigantesque. Donc c'est de l'eau pour le broyage, c'est de l'eau pour tout arroser en permanence, sinon personne ne verrait rien, on ne pourrait même pas travailler. Et c'est de l'eau pour le traitement du minerai, puisque donc ce qui est extrait est broyé en farine très fine pour avoir la libération, pouvoir libérer avec des procédés, des produits chimiques, les éléments minéraux d'intérêt, les uns après les autres. et qu'ensuite, donc, ces procédés-là reposent souvent sur l'hydrométallurgie ou des phases successives de l'hydrométallurgie, donc qui repose sur de l'eau, des matières liquides, et puis de la pyrométallurgie, le fait de brûler le minerai, de brûler les matières pour faire évaporer certaines substances, etc. Et donc, voilà, c'est déjà gigantesque en termes de consommation. Après, ce qui fait des mines, des machines à prédation d'eau, c'est aussi la pollution qui est à peu près, enfin, dans ce que j'ai vu, inexorable, en fait. Je vais d'abord vous donner un exemple français. Je reviens des Côtes d'Armor, j'étais à Glomet, et il y a là-bas quelque chose qui s'appelle carrière administrativement, mais qui en réalité est une mine. On y extrait de l'andalousite, un matériau réfractaire, avec des teneurs qui sont plus élevées qu'une mine de cuivre, mais ça génère des montagnes de déchets, etc. Et là, par exemple, c'est des mines à ciel ouvert, donc c'est très très vaste. Des mines à ciel ouvert, à chaque fois c'est des fosses de 10 à 20 hectares, et les déchets couvrent plus d'une centaine d'hectares déjà, depuis quelques décennies que ça fonctionne, depuis les années 70. Et en fait, cette roche, par exemple, qui est mise à nu dans ces fosses, elle est acidogène, elle contient de la pyrite, elle contient du soufre, et donc toute l'eau qui ruisselle dessus se transforme en acide sulfurique. Et ça, c'est un phénomène qui a lieu à Glomel sur 265 hectares. Et donc, cette eau s'acidifie et ensuite elle va drainer les métaux dont certains sont toxiques. Ça s'appelle le drainage mini-acide et ça existe dans beaucoup de mines qui contiennent ce genre de roche, ce genre de substance. Et donc, là, à Glomel, c'est très intéressant. Je dis ça, c'est tragique. On est en tête de 3 bassins versants. La mine se situe à cheval déjà sur 2 têtes de bassins versants. Ça veut dire que c'est l'eau à l'amont. C'est les sources, les ruisseaux, les zones humides sont là. Il faudrait sanctuariser ces zones, évidemment. Et il y a une gigantesque usine à acidifier l'eau et à drainer des métaux toxiques de manière irréversible. C'est-à-dire que donc c'est la société Imerys, hein, je tiens à faire la bonne publicité, qui s'impose. Donc la société Imerys acidifie l'eau sur plus de 265 hectares en Bretagne, et donc traite cette eau pour ne pas rejeter directement de l'eau acide. Il s'est engagé, à la fin de son exploitation, à continuer à traiter l'eau pour 5 à 10 ans. Mais, par exemple, moi je suis allée à Chessy dans le Rhône, et il y a des mines de cuivre qui ont fermé en 1877. L'État français finance le traitement de l'eau à très grande échelle, parce qu'il y a le même phénomène de drainage mini-acide, donc il traite l'eau depuis 150 ans. Voilà. Donc ça, c'est un des exemples, et je pense qu'il y a des gens qui vont en parler, parce qu'il y a des personnes qui luttent contre l'extension de cette mine qui sont présentes ici. Et alors, pour se déplacer, et pour être un peu plus dans l'ordinaire, malheureusement, les derniers reportages, ils m'ont amené au Maroc, et chaque fois, bien sûr, la question de l'eau se posait de manière centrale, si bien que moi j'ai fini par dire qu'exporter des métaux, c'est exporter de l'eau, et que en fait on importe des métaux du Maroc, donc du désert. La première fois, je me suis rendue à Imider. Imider, c'est une mine d'argent mercure. Vous voyez là, vous avez une autre raison pour laquelle les mines polluent beaucoup l'eau. Gisement d'argent qui contient du mercure. La mine produit à la fois de l'argent et du mercure. On est à Imider, donc c'est près de Ouarzazate, c'est au sud du Maroc. Pas l'extrême sud, mais une zone semi-désertique. Et donc, tout ce que vous extrayez, votre principal, tous vos déchets qui vont couvrir des dizaines, voire des centaines d'hectares, contiennent du mercure. Et donc ça part à tout vent, et ça empoisonne tout. Et là, les habitants, en 2011, ont constaté que dans le village d'Imider, il n'y avait plus d'eau du tout plusieurs heures par jour. Donc, ils ont compris qu'il y avait un nouveau forage pour alimenter la mine en eau. Donc cette mine qui doit consommer 1 million de mètres cubes par an. Et c'est des amazirs Cette mine, elle est gérée par une entreprise qui dépend du roi du Maroc. Et eux, ils sont comme un peuple colonisé, les Amazighs. Ils ne sont pas totalement intégrés à l'État marocain. Ils sont méprisés. Et c'est un peuple de paysans et d'artisans. Et bon, pour eux, la mine est sur leur terre collective, c'est le cas. Et puis, comme à chaque fois, ben, la Managem s'en empare avec de la corruption d'un chef qui est très vieux, qui signe des papiers et qui s'en va vivre dans une demeure luxueuse à Agadir. On a raconté plein de fois la même histoire. Et dans ce cas-là, Imider, enfin, les villageois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y avait plus d'eau. Ils sont allés construire un village d'occupation tout autour du réservoir d'eau de la mine, en haut de la montagne, face à la mine. Et ils sont restés jusqu'en 2019. Ils ont construit des maisons en pisé incroyablement belles, un pigeonnier, un terrain de foot, un potager. Et il y avait toujours du monde là-bas. Ils ont fait une assemblée dans laquelle il y avait des hommes et des femmes. Et voilà, ils ont gagné des choses. Ils ont gagné le fait que ce réservoir ne soit plus utilisé et que l'entreprise minière aille corrompre un représentant de village un peu plus loin pour s'approvisionner. Sachant que l'argent qui est extrait à Imider, par exemple, il est complètement... Enfin, il est à moitié... La moitié de ses usages, c'est l'électricité et l'électronique. Il y a les bijoux, mais de plus en plus, c'est tout ce qu'on va trouver dans une voiture, en fait, en matière de connectique. Une voiture, aujourd'hui, nécessite énormément d'argent. Les circuits, les micro-composants, évidemment, l'électricité, le BTP, du coup. Plus récemment, je me suis rendue au Maroc aussi, où les gens sont confrontés à un problème minier lié à l'eau. Donc, je suis allée à la mine de Bouazer, qui n'est pas très très loin de la mine d'Imider. C'est une mine de cobalt arsenic. Donc là, vous devinez ce que je vais vous dire, c'est-à-dire on extrait du cobalt, qui est déjà une substance cancérigène, et en plus, on extrait de l'arsenic, voilà, comme le mercure, c'est un poison. Et les déchets vont forcément en contenir énormément. Donc tout ça se disperse et empoisonne l'eau. Donc ce qui est intéressant avec cette histoire de cobalt au Maroc, c'est que là, Renault et BMW ont fait leur publicité sur ce cobalt. Et ils ont dit, nous avons conclu un accord avec la Managem, entreprise minière marocaine, pour un achat de cobalt responsable pour nos batteries de véhicules électriques. Cobalt responsable issu du Maroc. Bon, il n'y a qu'une mine. Hein. Donc, de la mine de Bouazer. Et BMW, pour vendre ses grosses voitures électriques de 2 tonnes et plus, avec des énormes batteries, voilà, on a fait sa publicité. Et donc, vous allez à Bouazer et vous voyez voilà, tout ce que les gens racontent, c'est qu'il y a de moins en moins d'eau parce qu'ils pompent dans la nappe. Il n'y a pas d'eau de surface, on est dans un quasi-désert. Et donc, la nappe est rabattue sur 5 mètres, 6 mètres, 10 mètres. Et donc, en fait, les arbres meurent. Là-bas, il y a surtout des palmiers dattiers le long des ouèdes, dans les oasis. Donc, non seulement l'agriculture de subsistance n'est plus possible, mais les gens que j'ai rencontrés cultivaient, en fait, dans des déchets miniers pleins d'arsenic. On voyait bien tous ces sédiments qui venaient de la mine. C'était des déchets miniers. Et on a fait même des analyses pour le prouver, et c'était vraiment, vraiment le cas. Donc c'est un empoisonnement, là aussi, irréversible. Et ça laisse... Il y a aussi tout l'aspect, bien sûr, de l'empoisonnement de l'air et des gens qui travaillent dans ces galeries, puisque c'est une mine souterraine. Renault a annoncé que pour ses batteries de véhicules électriques, il achèterait aussi du cuivre de la mine de Bléda, toute voisine, au même endroit, poserait à peu près le même problème. Du manganèse de la mine de juste au-dessus, là, près de Ouarzazate. Et donc, finalement, il y a tout un plan qui est, je dirais, triplement colonial. C'est vraiment le colonialisme au carré, puisque si vous prenez la mine de Bouazer, elle a été ouverte sous l'occupation française par les Français dans les années 30 pour avoir des alliages de cobalt pour les matériels militaires. Et puis ensuite, l'État marocain devient lui-même une puissance coloniale, à la fois vis-à-vis des peuples comme les Amazighs, dont il va prendre les terres et l'eau. et aussi dans le reste de l'Afrique, où ils développent l'activité minière. Et puis, maintenant, la transition, les besoins de l'industrie européenne, qui sont dévorants et qui vont juste utiliser la dictature marocaine pour essayer de satisfaire ses besoins. Donc, voilà. Finalement, c'est assez représentatif de ce qu'est la transition, comme la dette écologique au carré, la violence coloniale au carré. Je pense qu'une des principales questions, c'est l'articulation de l'ici et de l'ailleurs. Parce que quand... un des éléments de propagande pour justifier cette ruée minière, c'est de dire on va relocaliser une partie des mines. Et ça, c'est faux. C'est très important de comprendre que notre travail, c'est pas du tout de nous laisser berner et de croire qu'une mine de lithium ici annule une mine de cobalt, de lithium au Chili. Les demandes de l'industrie sont absolument extraordinaires. Elles ne pourront jamais être satisfaites. Il faut du lithium pour les alliages aluminium-lithium des avions d'Airbus par milliers de tonnes. Et en plus, il faut faire les batteries électriques. Et en plus, il faut de l'électroportatif jetable dans les magasins de bricolage. Donc, notre travail, c'est de lutter contre les projets miniers partout. De trouver des moyens d'activer les solidarités avec les diasporas, là où nous vivons. Par exemple, c'est un cas emblématique, le Maroc. Il y a des descendants de Marocains partout dans ce pays. Il y a des Marocains aussi, il y a des Marocaines. Et il devrait y avoir un dialogue et des alliances sur ces questions. Ce serait la première chose à faire pour faire de l'écologie dans ce domaine. Merci.
Chargé de recherche au FNRS, donc le Fonds National de la Recherche Scientifique en Belgique. Et donc il y a une formation en droit, philosophie et économie, et qui a accompagné des membres de la Constituante au Chili, et a fait un travail de recherche sur les transactions foncières au Brésil, et qui a enquêté aussi sur le lien entre extractivisme au Brésil, au Chili, et la transition, la finance verte et la transition énergétique en Europe, dans l'Union européenne, avec le pacte vert en particulier. Et donc on l'entendra donc sur notamment sur le volet comment est-ce qu'elle a mené son enquête donc sur l'extractivisme au Brésil et au Chili, voilà, mais en le remettant en lien avec la finance verte en Europe. Voilà, donc merci aussi.
Bonjour à tout le monde. Je voudrais commencer par remercier les organisatrices, organisateurs, toutes et tous ici présents. Je suis, depuis le début du village, j'ai été super impressionnée par l'art magnifique, les constructions incroyables et surtout l'écoute à toutes ces assemblées. Et voilà, j'espère que je vais pouvoir apporter quelque chose au débat. Alors je voudrais dire, moi j'ai travaillé en Amérique latine, c'est surtout des combats qui sont portés par des mouvements sociaux sur place, appuyés par des personnes, des chercheurs, chercheuses de là-bas. Et moi j'essaye d'amener un complément qui est parfois pas toujours considéré, qui est la partie du financement, qui est un peu plus obscure. J'ai parfois du mal à aller ouvrir les boîtes noires et suivre le fil des financements. Donc c'est des recherches en cours. Et voilà, donc c'est ce que je vais présenter. C'est Enquêter sur l'eau, l'extractivisme et la transition énergétique. Et donc les questions qui nous étaient posées, c'est faire le lien entre ici et le là-bas, entre guillemets, le lien entre eau, extractivisme et transition énergétique, et puis comment enquêter sur ces acteurs. Ça va être inversé. Je vais d'abord faire un très très bref panorama de l'eau et transition énergétique au Chili, et puis parler de l'agro-industrie et de la finance verte, aussi entre guillemets, au Brésil. Je vous emmène au Chili, dans la pointe de l'Amérique du Sud, qui est ce pays extrêmement long. C'est le premier pays qui a complètement privatisé les ressources en eau. Donc l'eau, Pinochet arrive au pouvoir en 1973 en français. Et en 80, la Constitution prévoit une possibilité d'appropriation des ressources en eau. Et en 1980, il y a un code de l'eau qui permet vraiment non seulement d'avoir un droit de propriété privée sur l'eau, mais de pouvoir mettre son droit de l'eau en garantie d'emprunt. Il y a vraiment tout un marché qui se crée autour des droits de l'eau. 80% des ressources en eau se retrouvent dans les mains des droits de l'eau se retrouvent dans les mains de 2% des titulaires de ces droits de l'eau. Et jusqu'à aujourd'hui, 15% de la population n'a pas accès à l'eau courante. Des pompes de camions citernes pour l'eau, avec des problèmes de contamination parfois de cette eau, des diarrhées, une surmortalité infantile dans ces régions-là, etc. Et donc ça, c'est le cadre légal qui a permis à différentes industries de s'installer sur tout le territoire du Chili. Et donc, dans le nord, c'est particulièrement la mine. Donc vers Antofagasta, dans cette région-là, jusqu'à en fait Copiapo, là, tout le nord. Donc il y a le lithium, ça c'est bien connu, le triangle du lithium, le cuivre, le fer et d'autres minéraux. Puis vers la Serena, donc là il y a toute l'industrie genre l'avocat, qui est très vorace en eau, tout ce qui est l'industrie du vin. Et puis on descend et il y a les forêts qui ont été transformées de forêts tropicales en plantations de pins et d'eucalyptus. Il y a des fermes de saumon, de l'élevage intensif de saumon qui détruit à peu près tout. On pourrait en parler pendant très longtemps. Et puis là, c'est cette nouvelle industrie de l'hydrogène qui est un peu partout, mais qui se voit très très clairement dans le sud magallanais, dans le sud du pays. Et donc il y a après ça, c'est Petorca, ça c'est le cœur de la culture d'avocat au Chili. Donc vous voyez tout le reste super aride et puis les droits de l'eau qui ont été accaparés par quelques grandes industries de production d'avocat. Et les lacs qui s'assèchent sur de 2016 à 2022, un lac qui a disparu. Donc ça, c'est des exemples de problèmes de sécheresse. Et donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas rentrer en détail sur le Chili, mais ici c'est juste un exemple de l'accord qui a été renouvelé en 2022 entre l'Union européenne et le Chili. Plus de 60% du lithium utilisé dans l'Union européenne vient du Chili jusqu'à présent. Et donc l'accord a été renouvelé pour sécuriser les ressources en lithium dans l'Union européenne. Les flamants roses sont en train de disparaître des salares, donc des sites uniques desquels on extrait le lithium en laissant s'évaporer l'eau. Donc en fait, c'est pas comme dans l'Allier, donc c'est pas le lithium existe dans la roche, donc c'est plutôt comme du coup de la mine classique, on dirait. Et puis alors dans le triangle du lithium, c'est beaucoup plus rentable parce qu'il suffit de laisser s'évaporer l'eau et puis il suffit avec pas mal de procédés chimiques aussi, mais c'est beaucoup plus rentable d'extraire le lithium. Donc ça c'était une parenthèse. Et alors SQM, la Sokimich, qui est la première compagnie de lithium au Chili. Je vais quand même vous dresser un tout petit panorama historique. Donc c'était une compagnie publique du temps d'Allende, et puis sous Pinochet c'est passé à son beau-fils, et c'est toujours en partie dans la famille de son beau-fils, donc Julio Ponce de Leroux. Et la SQM a pu il y a 2 ans de ça, un peu plus de 2 ans, lever 700 millions de dollars d'obligations vertes, puisque c'est une industrie qui permet la transition énergétique. Voilà. Et alors, je vais en fait terminer avec ça, c'est dire là on part plus sur le lithium, mais sur l'hydrogène, qui est ce nouveau Eldorado, avec énormément d'intérêt d'investisseurs. Il y a cette espèce de bulle qui a été créée sur l'hydrogène comme nouvelle industrie qui va un peu nous sauver. Donc ça, c'est produit par l'électrolyse de l'eau, donc il faut de l'électricité. Pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment bien comment ça fonctionne de produire suffisamment d'hydrogène vert, donc à travers des énergies renouvelables pour produire cette électricité, pour produire le hydrogène, et puis pour pouvoir le transporter sans recréer des émissions dans le transport. Et donc ça, c'est tous les acteurs qui font partie du conseil de l'hydrogène. Je pense que vous pouvez en reconnaître quelques-uns. Ce qui est très intéressant et un peu terrifiant, c'est que le Chili, comme État, s'est endetté à hauteur de centaines de millions d'euros, de dollars, pour développer cette infrastructure. Et donc, il y a plein de compagnies qui sont installées. Il y a Total qui est là, puisqu'on est en France. Il y a beaucoup de compagnies allemandes. Il y a des fonds d'investissement des États-Unis, d'ailleurs. Il y a des accords qui ont déjà été signés pour exporter de l'hydrogène vers le port d'Hambourg. La même chose pour Rotterdam, pour livrer la base énergétique pour l'Europe. Et en réalité, on ne sait pas vraiment comment ça... Pour l'instant, c'est toujours de l'hydrogène à base de pétrole ou de gaz, ou biomasse, donc de l'hydrogène gris, entre guillemets. Et il y a énormément de ressources qui ont déjà été données de la part du Chili, y compris aussi des terres publiques qui ont été prêtées à long terme pour des acteurs privés. Donc on est un peu dans cette situation de grande transformation locale, d'utilisation de l'eau dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau. Les glaciers sont aussi en train de disparaître. Donc si vous avez vu le Chili, il y a toute la cordillère des Andes, mais les glaciers sont dans la situation qu'on sait, donc c'est aussi très préoccupant à ce niveau-là. Et voilà, je vais terminer sur une note plus positive, ça va être un peu abrupt la transition, mais ce qui me donne vraiment confiance, c'est une forme d'espérance, c'est la résistance des mouvements locaux au Chili, et très, très particulièrement, j'ai été à Magallanes, accompagnée des groupes d'écoféministes qui font une résistance incroyable sur le terrain, à la fois par la voie institutionnelle, donc tout ce qui est études d'impact environnemental, qui mobilise des centaines de personnes pour forcer chaque fois le ralentissement des projets, et à la fois par des actions directes, donc vraiment, et de la solidarité entre elles. Et donc, je vais terminer avec ces deux exemples de reposer des bases d'un autre système, depuis les territorios, comme ils et elles disent. C'est ni la terre, ni les femmes sommes territoires de conquête. Ça, c'est la marche des femmes à Santiago. Et alors ici, c'est un panneau qui est à côté d'une rivière qui a été restaurée par les communautés diaquites, donc c'est des communautés autochtones du lieu. Et il y avait un panneau qui disait combien d'argent ça avait coûté, et ils ont tout effacé et ils ont repeint en disant voilà, ça c'est notre code pour vivre autour de ce fleuve restauré, donc on n'abîme pas la végétation, par contre on peut regarder les oiseaux et laisser le site plus propre que comme vous l'avez rencontré. Donc voilà, ça c'était pour la page Chili. Non, je vais vous expliquer juste un projet au Brésil qui va permettre de peut-être regarder un peu plus comment fonctionnent parfois les mécanismes de finance verte. Ok. Donc ici, ce que vous voyez là, c'est le tracé de ce qui s'appelle Ferrogrão. Donc désolé, hein, je vous ai pris là du Chili et on est arrivé dans le nord du Brésil, dans la zone de l'Amazonie. Et donc le ferrogrão, c'est un chemin de fer qui va relier l'état du Pará. Donc ça, vous voyez, c'est une partie du Brésil, l'état du Pará qui a accès à l'océan Atlantique, vers l'état du Mato Grosso, qui est un des états les plus déforestés pour la production de soja, maïs et puis élevage. Et donc c'est un chemin de fer qui fait partie du projet Arco Norte, qui est l'idée, c'est de créer 16 sites d'infrastructures, donc ports et autres infrastructures, qui permettent d'exporter de manière plus rentable la production agricole du nord du pays, plutôt que de devoir descendre vers l'état de São Paulo, plus dans le sud. Et voilà, la suite du pays. Et donc, ce projet-là, c'est le premier à avoir reçu l'autorisation au Brésil d'émettre des obligations vertes. Donc ça veut dire d'avoir accès à toute cette vague de financement qui est maintenant libérée parce que tout le monde veut pouvoir dire qu'ils sont zéro carbone neutral et qu'ils ont ils font des prêts verts. C'est selon le cadre, enfin l'idée, c'est qu'ils suivent le critère que c'est un chemin de fer. C'est 933 km de long dans le projet. C'est un chemin de fer et c'est pas une route. Et donc, ils vont diminuer les émissions de transport. Okay. Donc, le financement, il y a déjà la Banque publique d'investissement, la Banque publique de développement du Brésil qui soutient le projet. Ça a été promu à travers tous les roadshows d'investisseurs privés, etc. Le problème, c'est que le tracé passe à travers une zone protégée par la Constitution de 1988 et par des thèses indigènes. Et donc maintenant, pour l'instant, c'est devant le tribunal, l'équivalent du tribunal constitutionnel, et tu peux passer s'il te plaît. Merci. Et donc on ne sait pas vraiment où ça va aller. C'est quand même intéressant de se dire que des normes constitutionnelles et la norme par exemple de consentement des personnes autochtones par l'Organisation internationale du travail sont maintenant mises face à une espèce de grille de critères d'une organisation privée qui dit que en fait ça peut, enfin qui permet de donner l'autorisation d'émettre des obligations vertes. Alors ici, ce que je voudrais proposer comme cadre, c'est que c'est une forme de découpage vert. Donc c'est à dire que quand on dit que en fait le chemin de fer c'est vert, on regarde juste, premièrement on regarde juste les émissions, la mesure carbone. Donc ça a déjà été beaucoup critiqué. On regarde juste une petite partie de tous les effets et de tous les problèmes qu'on a. Donc par exemple, la biodiversité, elle n'apparaît pas. Tout ce qui est lié à l'agriculture intensive, donc phosphore et nitrate, ça n'apparaît pas. Et on regarde évidemment pas les effets sur les communautés locales, etc. Et alors on ne regarde pas non plus le contexte d'application de ces projets. Au Brésil, même si on regardait juste la mesure carbone, au Brésil, en fait, la transformation de l'usage des terres et du secteur agro, c'est 70%, en fait, un peu plus de 70% de l'émission des gaz à effet de serre. Donc c'est énorme. Donc en fait, si on va faire des projets verts qui vont soutenir le secteur agricole, on participe à la production de plus d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de se dire quels sont les présupposés épistémologiques, qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on décide de ne pas regarder parfois. Je vais passer rapidement là-dessus parce que c'est peut-être un peu plus académique, mais je regarde un peu le rôle du droit pour permettre de faire cette division. Et là, c'est par exemple le type de montage qu'on a en droit des sociétés pour pouvoir acheter des terres par, en l'occurrence, le deuxième fonds de pension des États-Unis. Et la finance permet de faire des tranches. Voilà, et de faire ce découpage et puis de regrouper et voilà. J'arrive un peu au bout, mais je voudrais juste redire l'espèce de monstre qu'on parvient pas vraiment à vivre. Enfin, il faut vraiment le voir pour le croire. Le complexe agro-industriel au Brésil, c'est des machines dont on peut pas imaginer la taille. Il y a une expansion du secteur et donc une transformation aussi de tout le financement du secteur. Donc depuis 2004, mais surtout deux lois qui sont passées sous Bolsonaro, permettent d'utiliser des morceaux de la chaîne agricole, des morceaux de terre, de créer des securities, donc j'ai oublié le mot en français, mais donc on refait des pools d'actifs avec des morceaux de chaîne de l'agrobusiness et on les revend. Et alors ils peuvent aussi émettre directement en devises étrangères, donc directement en dollars, donc directement sur le marché financier international. Ça, c'est des deux grosses nouveautés parmi beaucoup d'autres de la loi Bolsonaro. Et en fait, ce secteur, il valse vraiment, ou il surfe en fait plutôt, sur la vague verte. Parce que y a, donc là, vous voyez, c'est du soja, de l'eucalyptus et de la canne à sucre qui peuvent tous servir de biocarburant. Donc, c'est des flex crops et des flex trees, comme on dit. Donc, en l'occurrence, le soja et la canne à sucre, c'est, on dit les triple F, donc food, feed, fuel. C'est-à-dire qu'on peut manger, on peut faire manger le bétail et on peut en faire du carburant. Et donc, c'est très, très, très rentable parce que selon où se trouve le prix, on fait notre marché, quoi. Et la même chose avec l'eucalyptus, qui peut maintenant non seulement servir de papier, alors on a beaucoup diminué le plastique, mais on n'a pas du tout diminué notre usage, donc en fait on a besoin de papier. Et donc le plus grand producteur de papier à base d'eucalyptus se trouve au Brésil. D'ailleurs, il est sur la bourse de valeurs, c'est en index de durabilité au Brésil, petit détail. Et l'eucalyptus peut aussi donc servir à avoir des crédits carbone. Donc il y a une reprimarisation du pays, et je termine. Là où vont les obligations vertes, la finance verte au Brésil, c'est surtout dans l'usage des terres. Je vais juste dire un détail ici, c'est que sur les données, ça vaut quand même la peine. Ça, c'est le genre de comment j'enquête, je regarde quand même pas mal de données. Désolée, c'est... Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est que qui a accès à ces données? Donc ici, c'est beaucoup des organisations privées. Qui ont ces données, donc on est un peu dépendant de qui a le pouvoir, enfin déjà les ressources pour avoir ces données et à quoi elles correspondent exactement et ce qui est occulté déjà dans ces bases de données, c'est pas toujours évident. Et alors ce qui est considéré comme qui est relevant de quelle catégorie? Donc la FAO Grant, c'est censé être du transport, mais en réalité on pourrait tout à fait remettre dans land use parce qu'en fait c'est un projet agricole. Je vais terminer avec cette observation, c'est qu'il y a une transformation du droit. Et un pouvoir d'acteur du Nord pour déterminer le droit qui encadre ces instruments financiers au Brésil. Et donc, par exemple, Climate Bonds Initiative, qui est cette organisation qui a proposé ce critère de clean transport, ils ont refait maintenant la taxonomie au Chili. Et donc, ils disent, oui, on a participé à la création de la taxonomie dans l'Union européenne, on sait comment ça marche, on va vous aider à attirer des investissements. Et donc, ils recréent vraiment des... Enfin, il y a quand même quelque chose qui est un peu perturbant en termes d'autonomie, quelle va être notre feuille de route vers la durabilité. Mais en fait, ils sont en train de jouer un rôle vraiment fondamental dans plusieurs pays, notamment en Amérique latine. Et voilà. Et donc, par ailleurs, le code de la forêt et le droit de l'environnement classique a été vraiment détruit depuis les 10 dernières années. Et donc c'est intéressant de voir maintenant on peut profiter de ces financements verts en disant on va reforester, mais en réalité les obligations de conserver les terres avec les arbres dessus ont été vraiment affaiblies. Et donc il faut aussi voir ces deux dynamiques en parallèle. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.
MGA, RADIO, Méga Radio.
Ciao tutti antifascisti. Ciao tutti antifascisti. Ciao tutti antifascisti. Ciao tutti antifascisti. Ciao tutti antifascisti.
Bonjour Sébastien.
Salut.
Qu'est-ce que c'est VISA ?
Vigilance et initiative syndicale antifasciste. C'est une association qui existe depuis 1996 et qui regroupe 240 structures syndicales à l'échelle nationale sur toute la France avec Solidaire, CGT, FSU, hein, c'est le triptyque de base on va dire, et puis pas mal de syndicats à chaque fois des uns et des autres. Un syndicat de la CFDT, un syndicat IFO, oui c'est possible, des syndicats de la CNT, CNTSO, syndicat de la magistrature et depuis peu le syndicat des avocats de France.
VISA, l'acronyme,
Vigilance, initiative syndicale antifasciste.
Vigilance, oui, l'époque est un peu tendue, donc faut être vigilant.
Bah oui, ça fait depuis 96 qu'on mène ce boulot. À l'époque, c'était en fait la commission syndicale d'un mouvement qui s'appelait Ralfron. Puisque 96, ça correspondait pour les plus jeunes à, on va dire, la première offensive sociale du Front National, qui avait créé en 96 cinq syndicats étiquetés FN, Force Nationale, mais bon, c'est un faux nez pour FN Police, FN Pénitentiaire, ce qui n'est pas très étonnant en termes de version régalienne, on va dire. Et puis par contre, ils avaient fait également créer un FN RATP, FN Transport en Commun Lyonnais, FN Transport en Commun. Voilà, cinq syndicats étiquetés FN, et c'était l'époque où ils venaient d'acquérir quatre mairies en région PACA, Toulon, Orange, Marignane et Vitrolles. Et puis voilà, donc c'était pour crever un peu le plafond de verre, et du coup ils venaient faire concurrence aux syndicats, et donc ils ont créé ces syndicats qui ont été invalidés grâce justement à une réaction antifasciste syndicale et donc un travail de vigilance. Ouais.
Visa, V comme vigilance, le A de antifasciste, I comme initiative.
Oui, antifasciste parce qu'on se revendique effectivement d'une filiation antifasciste qui existe depuis que le fascisme existe depuis les années 20. Alors on n'est plus dans le même contexte, les années 20, les 30, fascisme, nazisme, le franquisme, etc. Mais à l'époque, on sait que dans les pays où ils ont pris le pouvoir, parmi leurs premières victimes, ça a été à la fois leurs opposants politiques et les syndicalistes. Hitler, quand il prend le pouvoir en 1933, le 1er mai, c'est la dernière fois où les syndicats manifestent librement. Et le 2 mai, tous les syndicats sont interdits, les locaux sont dévastés, les syndicalistes sont arrêtés et mis dans les premiers camps de concentration qui étaient pour leurs opposants politiques. D'où le fameux triangle rouge pour les opposants politiques dans les camps de concentration. Puisqu'après vont venir évidemment les juifs, les tziganes, les homosexuels, le triangle rose, etc., etc. Voilà, donc le triangle rouge, l'aspect antifasciste. Et initiative, parce qu'en fait, on fait deux types d'initiatives. La première, c'est tout un boulot d'analyse, à la fois FN, RN, devenu RN, l'extrême droite dans le monde du travail, comment leurs idées diffusent. Aussi, on l'a vu, ils sont capables de dire tout son contraire, notamment sur les retraites, par exemple. Donc on a fait un gros boulot avec pas mal de brochures qui ont été vendues à chaque fois plus de 10 000 exemplaires et diffusées dans les structures syndicales pour les équipes militantes, pour armer syndicalement les équipes. Et par ailleurs, on fait un boulot également de formation. Formation syndicale, depuis 2013, on a fait plusieurs centaines de formations avec à chaque fois entre 20 et 100 syndicalistes. Donc on a fait un gros boulot de fourmi dans une soixantaine de départements, quoi. Toujours pour les syndicalistes.
Juste sur le point antifasciste que tu mentionnais tout à l'heure, il y a une historienne que j'aime bien qui dit le fascisme, c'est un instrument qui sert à faire baisser les salaires. Peu importe le décorum, chemise brune, chemise noire, moustache, pas moustache, mèche, pas mèche, antisémite ou pas, peu importe, le fascisme est protéiforme, il met le masque du jour, mais, dit cette historienne, la vilaine Annie Lacroix-Riis, c'est le dernier instrument ou l'un des visages possibles, le plus hideux ou l'un des plus hideux de la bourgeoisie quand elle a peur pour son capital. Quand la figure d'un Macron ne suffit plus, il y a toujours cette solution-là pour faire baisser les salaires.
Oui, alors
c'est une analyse qui peut être très choquante pour des tas de gens. C'est un instrument avant tout de guerre économique.
Oui, mais je pense qu'il y a une indépendance et une autonomie. C'est-à-dire qu'à l'époque, que ce soit en Italie, en Allemagne, la droite conservatrice pensait pouvoir instrumentaliser qui les fascistes, qui les nazis. La bourgeoisie et les industriels, évidemment, vont les financer et vont faire des très bonnes affaires fructueuses. D'où les bouquins d'Annie Lacroix-Riis, notamment sous le patronat français, effectivement sous l'occupation, et qui a fait des très très bonnes affaires.
Ford, IBM, Lafarge,
ouais, Renault, qui a été nationalisé après, mais voilà, donc c'est clair.
Les industries de cosmétiques françaises qui ont toujours été fascistes.
Oui, ouais. Et puis, là, on l'a vu avec Bolloré et d'autres, là, il y a une opération séduction, et à la limite, la question du racisme, du remplacement, les choque pas.
J'ai rappelé qu'on n'a pas besoin d'être antisémite pour être fasciste. D'ailleurs, dans le mouvement fasciste de Mussolini, il y avait des juifs qui militaient, ils ont été très...
Oui, simplement, ils ont adopté effectivement les lois raciales à partir de 1938, à l'image de ce qui s'est passé en Allemagne nazie. Donc il y a toujours, de toute façon, un fond, il y a des invariants, c'est-à-dire le nationalisme, c'est-à-dire la figure autoritaire, évidemment. Alors c'est plus le même contexte que les années 20, 30, 40, ça je le redis, maintenant ils ont la cravate, on a fait une belle affiche avec un vautour avec une cravate, et d'ailleurs c'était leur emblème des députés pour montrer leur respectabilité et Voilà.
C'était un petit crochet pour rappeler la fluidité du fascisme, oui, qui peut, voilà, quelle que soit la couleur de la chemise, en fait, bon, il est très protéiforme et adaptable.
Oui, tout à fait. Ils ont des courants parfois contradictoires aussi. Hein. Il y a aussi bien des monarchistes, des nationalistes dits révolutionnaires, etc.
Des homosexuels.
Oui, oui, bien sûr. Non, mais il y a des changements. Ils s'adaptent au contexte. Selon les pays, c'est pas tout à fait les mêmes. Mais voilà, bon, bref. Mais voilà, pour nous, ça représente effectivement un danger. Et on dit que c'est le pire ennemi aussi des salariés, justement, quand il est capable de percer le plafond de verre et de faire alliance, évidemment, avec une frange du grand patronat. Voilà. Il se représente d'ailleurs comme le parti de l'ordre. Hein. C'est pas pour rien. Il y a aussi des mots qui résonnent aussi. Hein. L'ordre, la sécurité, évidemment l'immigration, terrain qui laboure depuis plus de 5 décennies avec malheureusement un grand succès. Quoi.
Alors voilà pour le A de visa, le A de antifasciste, et puis on n'a pas fait le S.
Syndical, bah parce qu'on regroupe que des syndicalistes, que des syndicats. Voilà. On est autonome du champ politique, on vit que par les cotisations de nos adhérentes et adhérents, donc les structures syndicales, et les camarades qui animent visa sont mandatés par leurs structures syndicales. Ça nous paraît important, c'est-à-dire qu'on n'est pas des électrons libres, mais par contre, on fonctionne sur la dynamique du consensus. Hein, comme je t'ai montré, tu as vu, entre la CNT, la FSU, la CGT solidaire, enfin voilà, il y a plein de différences aussi, mais au moins sur le terrain de la lutte contre l'extrême droite et les idées d'extrême droite, pas seulement contre le Front National, le Rassemblement National, qui est un peu le vaisseau amiral, on va dire, force de proue, mais on a vu Reconquête, mais également les groupuscules qui agressent dans les manifs, des locaux syndicaux qui sont ciblés, des syndicalistes qui sont attaqués, menacés. Enfin voilà, donc du coup, on a cette particularité effectivement de réunir d'agir sur le champ syndical, ce qui ne empêche pas de faire avec d'autres, comme on a fait avec Acrimed, Action Critique Média, sur la question des médias et la banalisation de l'extrême droite, comme on bosse avec une des associations comme dans le cadre de Vox Public. Enfin voilà. On est un peu tous azimuts, mais quand même centré sur le terrain de la lutte syndicale antifasciste.
Voilà, donc VISA et, une dernière fois, l'acronyme, Vigilance Initiative Syndicale
Antifasciste.
C'est un outil créé par toutes les structures que tu as énoncées au début, une espèce de tuyau de communication, de formation et d'action.
Oui, c'est ça, ouais. Alors tu remarqueras qu'il y a des syndicats qui sont absents, hein, voilà, qu'on voit
ça,
pas.
C'est normal, tu veux dire que la CFDT n'est pas là.
Ils sont relativement clairs, je te dis, on a un syndicat CFDT, ils sont assez clairs pour exclure, contrairement à d'autres syndicats, par exemple comme FO, pour exclure quand ils ont des gens qui se révèlent être des militants d'extrême droite. On peut être, ne pas être d'accord, mais au moins, sur cet aspect-là, ils sont assez clairs. Comme l'UNSA, assez curieusement aussi, est assez clair et a encore récemment, en 2021-2022, ils ont viré effectivement deux responsables de syndicats UNSA qui étaient directement sur des listes du Rassemblement National.
Et donc VISA est là, sur ce village de l'eau.
Oui, avec d'autres camarades. Là, on n'est pas loin, par exemple, de Solidaire. Solidaire est partie prenante depuis l'origine de VISA. Voilà, et comme le contexte... fait qu'il est quand même bien pourri par la montée de l'extrême droite d'un point de vue électoral et aussi la diffusion des idées, largement de là, on l'a vu sur cette saloperie de loi immigration qui a été adoptée quand même par les macronistes, LR et Rassemblement National. Et ça nous semblait important d'être aussi pas déconnecté des luttes en cours et que l'intersectionnalité des luttes, hein, de défendre aussi bien le monde paysan, la bataille de l'eau, etc. D'ailleurs, dans la Confédération paysanne, il y a aussi certains de la Confédération paysanne qui sont dans des visas locaux, par exemple en Ariège, en Bretagne, etc., qui sont inscrits également dans notre aide de visa. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est pas que les syndicats de salariés classiques, ouvriers, employés, mais aussi les syndicats d'agriculteurs comme la Conf paysanne.
Et donc, retenez cet acronyme VISA, Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste. Merci à toi.
Merci à toi. Nos Batsaran et nos Patsaran, ouais.
Quand on lutte, quand on résiste, ça fonctionne. Il y a un truc qui est bien clair, c'est qu'il y a les luttes, il n'y a que les combats qu'on ne porte pas, qu'on est sûr de perdre. Lutter, ça vaut le coup. Et de toute façon, ça vaut toujours le coup. Parce que ce qu'on vit en luttant, les rencontres qu'on fait, en fait, ça nous rend juste vivants. Et donc, il n'y a aucun doute. S'il y a des gens qui se font chier, il y a un truc, rentrer dans la lutte, votre vie, elle va prendre un nouveau sens, hein, ça c'est clair.
Ok. Passons aux choses sérieuses. J'ai mes munitions, mon plastique, et mes chewing-gums blackjack, et surtout, ce pressentiment. Ce merveilleux pressentiment qu'il va encore se passer des trucs bien crades.
Hello, la méga radio, on vient d'arriver à La Rochelle. On a mis un peu moins, à peine 2 heures pour y arriver. On s'est fait contrôler, en fait on est passé par le sud, par la route de Surgères. On a fait un petit détour et en fait là sur une petite route, vraiment ils bloquaient, ils fouillaient tous les véhicules, même si... il n'y avait pas que nous qui avons eu cette idée, puisque je pense que tous les gens qui étaient devant nous qui se faisaient fouiller venaient de Mel aussi. Mais en fait, on a eu encore une fois des policiers plutôt très courtois qui avaient plutôt la flemme de faire ce qu'ils faisaient. Bon, ils nous ont quand même finalement confisqué notre couteau à huîtres et deux paires de gants de jardinage et chantier qu'on avait oublié dans la voiture. Voilà. Donc ça a été saisi. Et puis après, en fait, on a, grâce à Waze, évité un autre contrôle routier qui faisait un assez gros bouchon à l'entrée de La Rochelle. Et on a fait une petite boucle très marrante pour éviter ce contrôle. Et puis on s'est garé sans difficulté et on s'est retrouvé avec tout un groupe qui amène les sandwichs pour midi. Voilà, donc on va rejoindre le lieu de rendez-vous, le parc Charruet, et puis c'est parti pour la journée. À très bientôt.
Attention dans ce message, donc 10 camions de CRS viennent de vider leurs occupants sur le fond du port et se dirigent, comme nous d'ailleurs, vers le parc Charruet. Donc ils sont armés jusqu'aux dents et ils n'ont pas l'air de venir pour faire la causette. Voilà, attention, ils sont au fond du port là. On est toujours au milieu du parc et on apprend que le camion qui contient tout le matériel est bloqué par les CRS. Et donc la manifestation décide de se rendre gentiment vers l'endroit où le camion est bloqué. Voilà. Thank you.
On est 4000 personnes à s'être réunies dans le parc de La Rochelle. Il y a beaucoup de gens qui se sont garés à l'extérieur, qui se sont organisés toute la nuit d'hier et dès ce matin encore. Il y a du matériel de son qui a été saisi ce matin à l'arrivée. Donc il y a eu une réorganisation en continu de la part de...